Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 79e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection de l'actu à moi et à CAF. Salut CAF.
Oui, bonjour Fesquil.
Est-ce que ça va bien?
Écoute, impeccable. Ou impeccable.
Impeccable. Et on va commencer avec notre nouveau running gag de la semaine, Apex, puisqu'on en parle toutes les semaines. Maintenant, c'est Apex News avec des nouvelles du côté du Battle Royale de nos amis qui ont fait Titanfall. J'ai oublié leur nom, pardon.
Respawn,
voilà, c'est ça.
Ouais, bah parce que évidemment, ça bouge sans arrêt. Hein. Tu sais comment ça se passe, les Battle Royale, on en parle jusqu'à ce que ça soit moins intéressant pour nous. J'ai fait une petite partie de PUBG récemment et je pourrais vous en parler aussi si c'était prévu dans la conduite. je me suis rappelé en fait pourquoi je n'y jouais plus, et j'y ai joué pourquoi, parce que Apex actuellement a un petit souci de crash, et donc quand tu es très frustré, tu as tendance à relancer d'autres titres en te disant j'en ai ras le bol de disparaître du jeu qui fait un retour Windows à la vitesse de la lumière, alors que t'es en train de faire un petit top 2, tu vois, un petit top 3. Oh, tu sens que ça sent la victoire quand même, et puis non, pas du tout, le jeu en décide autrement. C'est un petit peu le souci d'Apex depuis le lancement, cette histoire de plantage. Il y a un petit papier sur Geekzone qui devrait aider les gens qui ont des cartes Nvidia RTX, donc les nouvelles, la génération 2000, 2060, 2070, 2080 et compagnie, qui ont des vrais soucis en plus des trucs classiques qui semblent liés à la gestion de la mémoire du jeu. Mais la problématique, c'est que ça continue et que les derniers patchs qui sont sortis, il y en a toutes les semaines, voire un peu plus en ce moment, parce qu'ils essaient justement de tu sais, c'est un peu, tu imagines les mecs au fond de la cale du bateau qui prend un peu la flotte en disant non, restez les mecs, notre jeu il est super bien. Bah ouais, tout le monde kiffe, mais on voudrait pouvoir y jouer et finir les parties en vrai.
C'est ça.
Donc ils ont un petit souci avec ça. Je vous confirme que pour le moment, les mecs ont un peu les mains pleines, ils savent pas trop ce qui est quelle est la vraie raison de tous ces plantages, qui n'ont jamais été un vrai souci. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de ça sur Titanfall en PVP. Du coup, c'est nouveau, entre guillemets, ce qui est un peu logique, vu qu'à mon avis, ils ont quand même changé pas mal de choses au niveau du moteur réseau, entre autres, et du moteur du jeu en général pour faire un Battle Royale. Donc, on va suivre ça de près, mais je vous confirme que c'est en train de tanner pas mal de gens. J'ai même vu des streamers re-switcher de jeu en mode genre, bah les gars, ce serait pas mal, mais comme je vais pas infliger des écrans noirs mes spectateurs, ça va être un petit peu pénible, donc on va changer de truc en attendant que ça soit réglé. Mais bon, ça n'empêche pas le jeu d'évoluer à côté, hein, les équipes ne sont pas les mêmes. Donc il y a un nouveau flingue qui vient d'être ajouté dans le jeu, qui s'appelle le Havoc Energy Rifle. Si vous avez joué à Titanfall, vous le connaissez. La petite nouveauté du truc, c'est que ce flingue, en fait, peut changer de mode de tir en fonction des hop-up, des petits bonus, des espèces de pièces qu'on met dans certaines armes, dans Titanfall, dans Apex Legends, pour justement, alors généralement c'est un bonus et lié à un truc, point. Dans celui-là, tu peux en choisir un des deux, et il y en a deux possibles qui vont sur cette arme. Il y en a un pour faire un rayon laser, il y en a un qui va permettre de tirer plus vite tout de suite. Donc c'est plutôt intéressant et ça ouvre des perspectives. Là je me dis qu'ils ont vraiment un système qui est assez prometteur pour justement varier les plaisirs du massacre des ennemis et trouver des armes qui correspondent un peu plus à son style de jeu. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi j'attends de voir maintenant ce qu'ils vont faire au niveau du Season Pass qui est prévu pour le mois prochain.
Donc c'est du côté des bugs, du coup.
Ouais, c'est le problème. Côté contenu, en fait, apparemment, c'est assez clair, mais côté bug, effectivement, ça va être un peu plus problématique. Ouais, il faut absolument qu'ils corrigent ça. D'ailleurs, en attendant, vous pouvez toujours aller récupérer un truc qui n'a rien à voir avec les bugs, mais vous pouvez les récupérer si vous avez un compte Twitch Prime. Vous pouvez aller récupérer des skins gratuites et des petits packs, tu sais, les fameuses loot box qu'on aime tant, pour aller récupérer quelques trucs gratuitement. Et si vous n'avez pas de compte Twitch Prime, ce n'est pas très grave, puisqu'apparemment, ça va être patché le temps que le podcast sorte, je suis désolé, mais on pouvait mettre une ligne de commande dans le lancement du jeu pour débloquer le truc directement. Alors tu pouvais pas le faire à l'infini, mais comme ça t'étais pas obligé d'avoir un compte et de le lier à ton truc Electronic Arts qui récupère ton adresse email, évidemment, parce qu'ils vont jamais t'envoyer de publicité, c'est pas comme ça que les gens font de nos jours, lol. Donc voilà, c'est les petits bonus à récupérer, ça fait toujours plaisir.
Voilà, on vous linkera donc évidemment toutes les infos qui vont bien autour de Apex Legends, y compris donc le billet que tu as fait cette semaine sur Geekzone pour expliquer comment contourner potentiellement les crashs, les retours au bureau qui sont visiblement quand même assez anticlimatiques, comme on dit.
Oh oui.
On va parler d'un thème qui a priori, ça se passe pas très bien pour BioWare là. Hein.
Ah là là, Electronic Arts a mis le paquet sur le marketing de Anthem, donc effectivement hein, le nouveau bébé de BioWare sur lequel on disserte, mais pendant des plombes sur notre forum et sur Discord et partout, et tout le monde est là genre mais putain, tu sens que les gens ont envie d'aimer le jeu. Alors Anthem, qu'est-ce que c'est hein, je rappelle, c'est un jeu de science-fiction où on est tous des petits Iron Man dans des petits power suits comme tu les aimes toi dans les films de Marvel et tu es censé prendre part à un grand scénario de science-fiction que je ne vais même pas vous détailler parce que je n'ai pas envie. Alors là vous allez dire dis donc caf, vraiment
tu fais pas d'effort.
Alors non, c'est vrai, parce qu'en fait ça serait vous mentir, j'y ai pas joué autant que les gens qui sont en train de faire les tests et qui sortent actuellement, loin de là, parce que j'ai pas réussi en fait, ça m'emmerde puissamment, le jeu me fait chier mais d'une force colossale, donc du coup j'y suis pas allé hein, comme on dit. personne me force hein, tu sais, de nos jours c'est comme ça que ça se passe, mais je suis obligé de vous en parler dans Torréfaction parce que c'est la grosse sortie de la semaine, tout le monde en parle. Du coup je vais juste vous balancer 2-3 liens dans le billet qui accompagne le podcast qui vont vous donner des pistes, on va dire, sur les raisons pour ne pas acheter le jeu. Hein, je vais être très clair. Et toi qui n'as pas trop suivi ce genre de truc, je vais te balancer quelques chiffres qui vont te téléporter dans des dimensions que tu ne connais pas. Genre la note de jeuxvideo.com. Tu sais, jeuxvideo.com, les jeux hein, qui aiment les campagnes de pub et les bonnes notes quand même. Hein,
souvent entre 18 et 20.
Voilà.
Plus parfois même.
13 donc. Hein.
Ok.
Donc là, tu vois, 13 sur JVC, t'es en mode
ça
genre,
calme.
Waouh, c'est pas beaucoup. Et actuellement, au moment où je parle dans le micro, la note sur Metacritic sur PC, c'est 67%.
Ce qui est vraiment pas beaucoup sur Metacritic, si je dis pas de conneries.
Ce qui est pourri, ouais. Ce qui est ultra, ultra, ultra pourri, puisque je vous rappelle que le monde merveilleux de la notation de jeux vidéo sur les sites américains, en tout cas, c'est souvent entre 7 et 10, tu vois, quand t'as moins de 7, il faut pas, et quand t'as 9,5, tu peux te dire, ok, j'y vais. Les mecs ont une échelle assez bizarre. Bon, alors ça change hein, avec le temps. Mais surtout, je vais vous linker une vidéo qui est d'un petit gars qui a un Patreon qui s'appelle SkillUp, qui fait débat aussi. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'il raconte dans la vidéo. Il y a pas mal de gens qui pensent que oh là là, il est toujours en train de dire BioWare c'était mieux avant. Moi, je le ressens pas du tout comme ça. Hein. Il explique juste que les mecs qui ont essayé de faire du BioWare dans un jeu qui fondamentalement n'en avait pas besoin. Ouais. Et ils en ont ajouté qui ne sert à rien en fait. C'est-à-dire que t'as des dialogues avec des choix qui n'influeront jamais sur le jeu. Donc pourquoi mettre des putains de choix? Ça ne sert à rien. Et entre deux missions, donc on est dans un shooter loot, hein, on est dans du Destiny 2, dans du Warframe, dans des trucs comme ça. Tu pars en mission, le but du jeu c'est de devenir de plus en plus puissant en suivant un ersatz de scénario, mais au bout d'un moment le scénario il est plié, et toi ta motivation pour continuer à jouer c'est d'avoir un gameplay de ouf et de aller récupérer des trucs pour faire que ton perso soit de plus en plus puissant. C'est la boucle de gameplay de base, ce genre de truc. Sauf qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans cette boucle de gameplay. Les ennemis sont super cons, t'as pas une impression de puissance de ouf, tes armes servent à rien, sont pas aussi puissantes que ce que tu devrais avoir, la map est pas extraordinaire, le moteur 3D est super joli, la map de base est très très jolie, mais t'as pas de variété en fait, t'es jamais surpris, t'arrives dans des coins où effectivement ça va être un peu plus joli, mais globalement t'as une impression de déjà vu partout dans le jeu au bout de très 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 peu de temps, ce qui est dans un titre où t'es censé poncer en boucle certaines zones, c'est pas possible en fait. C'est ce qui va sauver un Destiny 2, ce genre de choses, qui ont tous eu leurs problèmes au lancement. Hein. Parce qu'évidemment, tout le monde va les comparer le lancement d'Anthem au lancement des The Division, Warframe, etc. La position de BioWare sur ce jeu par rapport à Electronic Arts, entre autres, et donc à sa liberté, si tu veux, et les budgets, et combien de temps ils vont avoir pour en remettre, pour essayer de sauver le truc, n'est pas la même que tous ces développeurs. Chaque cas était vraiment très particulier. Donc là, je ne sais pas comment ça va se goupiller sur la longueur. Hein. Je n'ai pas de boule de cristal Crystal, mais je vous avoue que c'est mal barré parce que pour moi, contrairement à certains, je ne trouve pas que la boucle de gameplay soit bonne. C'est-à-dire l'essence même du jeu. Hein. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo, c'est un truc qu'on va vous faire faire en boucle. Voilà. Et puis, il faut pas que vous vous en rendiez compte en vrai. Hein. C'est-à-dire que si vous analysez les bases de tous les jeux que vous faites toujours la même chose de manière un peu différente en boucle. Donc, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là. Mais Anthem n'arrive pas à me convaincre là-dessus. Pas du tout. Les ennemis sont beaucoup trop bêtes. Les mouvements, je les aime pas. Il y a tout. En fait, j'ai vraiment du mal à accrocher à la moindre chose qu'ils ont voulu mettre dans le jeu, à part sur le côté de certains designs, le fait d'être sur, de faire son petit Iron Man, ça peut être sympa, mais moi, le vol limité, ça me frustre plutôt qu'autre chose. Donc, je suis excessivement déçu et contrairement à certains qui sont en train de développer un syndrome de Stockholm, je suis pas en train du tout d'essayer d'aimer le jeu à tout prix. J'en ai, là, tu vois, je suis déjà passé dans la phase, un de perdu, mille de retrouvé, parce que, le jeu vidéo, c'est un petit peu ça. Les journées font 24 heures et vu la gueule de mon backlog, ça ne changera pas ma vie de pas aimer Anthem, tu vois. Ouais. Et j'ai largement autre chose à faire. Donc, je suis triste pour eux parce que c'est un petit peu, je sais pas qui est parti, je sais pas comment le jeu a été développé, mais quand tu vois le résultat au bout de 6 ans de développement, 6 ans, c'est absolument pas à la hauteur des attentes. Là, c'est pas juste moi qui parle dans le micro en donnant mon avis. Les notes au niveau du launch là sont catastrophiques partout. Pour l'instant, j'ai pas vu un test qui fasse genre ah, c'est mortel et tout. Alors, en tout cas, sur un média avec des gens qui ont fait leur boulot. J'attends de voir ce qu'il y a notre ami Gotose qui vraiment transpire sur ce test et est en train de préparer ça pour le lancement. Donc je pense que ça devrait sortir peut-être au moment où le podcast sera dans vos oreilles, mais du coup je ne sais pas exactement comment lui le ressent. Je sais qu'il aime bien la boucle de gameplay par exemple, ce qui n'est pas du tout mon cas, sur le reste voilà, il n'y a pas assez de contenu, il n'y a pas assez de rien, et puis très très honnêtement ça fait longtemps que j'avais pas vu des bugs de cette taille là sur un titre labellisé AAA avec des temps de chargement débiles. Il y a toutes les erreurs qu'il faut éviter dans ce type de jeu sont là, c'est incroyable. Donc si vous parlez anglais, la vidéo que je vais vous linker, il y a vraiment tout dedans. Le mec, il y a passé 45 minutes.
Il a taillé un costard, comme on dit.
C'est même. Ouais, le mec, tu sens qu'il est là, genre, ouais, il y a ça, et puis il y a ça, et puis, ah merde, il y a ça aussi. Ah oui, j'avais. Ouh là là. Et tu sens qu'il y a une frustration. Le mec avait envie d'aimer le jeu parce qu'il est dans la cible, vraiment. Et là, le gars, il dit, mais non, mais c'est pas possible, en fait. Il y a un truc qui, moi, m'a choqué, et là, qui est typiquement dans BioWare, essaye de faire du BioWare, et il fallait pas. C'est donc, t'as un hub qui est vraiment la ville où toutes les missions se déclenchent, etc. Et fondamentalement, ce qu'on a vu dans la démo, c'est le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est chiant tout le temps, il se passe rien, le truc est absolument pas crédible, et quand tu rentres de mission, tu passes une demi-heure à aller parler à des mecs qui veulent tous te parler pour rien. Parce qu'en fait, ça va pas vraiment influencer le déroulement du jeu, la construction de ton perso, etc. Ça va faire avancer un scénario alambiqué bizarre qui, en plus, à aucun moment n'est vraiment passionnant. Donc, c'est des erreurs où tu sens que les mecs ont voulu faire un truc et puis ils se sont arrêtés. Ils se sont dit, oh non, attends, mais ça, on va le mettre quand même parce que c'est important. Non, en fait, ça tue complètement le déroulement du jeu. Pourquoi c'est pas dans les parties pendant que tu joues? Pourquoi les personnages s'expriment pas? Tu vois, il y a plein de jeux qui font ça. Et ça aurait été bien plus fluide, etc. Donc voilà, si vous voulez quand même tester, vous faire votre propre avis, la méthode la moins chère dans l'histoire, c'est de prendre un abonnement Electronic Arts qui coûte 15 balles par mois, comme ça vous laisse le mois pour tester le jeu et voir si vous accrochez à mort ou pas, puis après soit vous continuez votre abonnement, ce que je ne vous conseille pas sauf si le catalogue Electronic Arts actuel vous passionne, j'en serais étonné, mais bon, pourquoi pas, mais en cas où, ou alors vous achetez le jeu après direct, ça vous aura fait 15 balles la version d'essai. Mais pour le moment, si vous adorez les Power Suit et Iron Man, je crois qu'il est urgent d'attendre, et on risque d'attendre très longtemps, genre un autre jeu en fait.
C'est ça.
ça va être compliqué. Je suis hyper triste pour eux et personnellement frustré parce que tu as de la science-fiction dans ce genre-là. Pour moi aussi, j'étais parfaitement dans la cible, mais là, ça va pas être possible et je crois qu'il va falloir passer son chemin.
Allez, on va passer du côté de la culture et je prends le relais du coup pour vous parler de Doom Patrol. On avait déjà vaguement parlé quand on a parlé de Titans, la nouvelle série donc du service de streaming de Warner DC qui s'appelle DC Universe. On en avait parlé, si je me souviens bien, dans le Torréfaction 75. Donc c'est un spin-off de Titan, Titans, pour ceux qui veulent parler avec l'accent de Shakespeare, qui est diffusé donc depuis le 15 février. Normalement, le deuxième épisode va sortir aujourd'hui et ça sortira chez nous probablement sur Netflix dans quelques semaines, comme c'était le cas aussi pour Titans. Alors, Doom Patrol, c'est quoi? Mais en fait, vous les avez déjà vus dans Titans. Il y avait un épisode qui leur était consacré, qui était une espèce de backdoor pilote, hein, ce qu'on appelle dans le milieu. Donc, c'est un pilote qu'on te glisse dans une série déjà existante. c'est basé, en fait, sur le comics DC du même nom, donc, qui raconte, en fait, l'histoire d'une équipe de super-héros un peu décalée. C'était une volonté, à l'époque, de DC d'aller marcher sur les plates-bandes de Marvel. Donc, on est fin des années 60, époque où Marvel commençait à proposer, en fait, des personnages torturés avec des passés un peu difficiles, pas forcément des personnages tout blancs ou tout noirs quand il s'agissait de parler des ennemis. Et donc, ils se sont dit, tiens, ben, on va faire la même chose. Et ils ont créé, donc, cette Doom Patrol, qui est composée, donc, à la télé de Robotman, de Negative Man, de Elasty Woman, de Crazy Jane et bientôt de Cyborg aussi. On l'a pas vu dans le pilote, mais apparemment, il arrive. Et tout ça est supervisé, donc, par un personnage qui s'appelle Chief, qui est le docteur Niles Calder. L'antagoniste, c'est un monsieur que t'aimes bien, c'est Alan Tudyk, qui incarne, donc, Monsieur Nobody, qui est un personnage un peu bizarre aussi, qui se découpe un peu dans l'espace. Enfin, je vous en dis pas plus.
Il joue bien les personnages bizarres, en plus, quand il veut.
Voilà. Et c'est lui qui est donc le narrateur de ce pilote. Au cast, on retrouve également des gens connus, hein, puisqu'il y a Brendan Fraser dans le rôle de Robotman.
On va pas trop le voir, du coup.
Non, on le voit pas. On entend sa voix. Alors, en fait, on le voit parce qu'il y a pas mal de flashbacks. Justement, le pilote s'occupe, s'intéresse à leur backstory, raconte leurs origines, etc. Donc, on le voit encore sous forme humaine. Donc, je disais Diane Guerrero, qu'on avait vu dans Orange is the New Black, qui joue donc Crazy Jane, qui est ce personnage, c'est un peu le Légion de DC. En gros, c'est un personnage qui a plein de personnalités et chacune de ces personnalités a des pouvoirs différents.
D'accord.
Donc ça donne des trucs assez rigolos. C'est des personnages, comme je disais, démolis, qui ont tous un passé particulièrement hardcore et qui gèrent un peu difficilement leur statut actuel. On peut prendre l'exemple d'Elasty Woman, par exemple, qui est une nana donc qui ne contrôle pas vraiment sa composition moléculaire et qui, quand elle est un peu stressée, bah, se déforme complètement et devient élastique et se transforme en espèce de gros blob. Ce qui, pour une nana qui était une ancienne actrice très très
jolie,
très très jolie et surtout très très, enfin, qui le savait beaucoup, hein, qu'elle était jolie, qui avait beaucoup qui mettait beaucoup d'attention à son physique, c'est un peu difficile. Donc voilà, tous les personnages sont comme ça, en fait, ils sont tous un peu ils sont tous un peu largués. Et bon, alors pour le moment, le problème, c'est qu'on sait pas encore trop où ça va, parce que, comme je le disais, le pilote s'intéresse surtout à leurs origin story et à l'arrivée donc du bad guy Mr. Nobody, incarné par ton pote Tudyk. Mais bon, le pilote, moi, m'a touché, j'ai trouvé ça plutôt titillant pour la suite, donc on verra comment ça évolue.
Parce que c'est toujours aussi cheap.
Alors, c'est malheureusement toujours aussi cheap, mais ça se voit moins, parce que déjà, il n'y a pas de Beast Boy. Donc il n'y a pas de transformation en animal machin, ouais, un peu cheap, mais c'est vrai qu'il y a un ou deux effets spéciaux où tu fais oui, ok, d'accord, on voit que c'est de la CGI, ouais. Mais c'est moins choquant, enfin, en tout cas, ça m'a moins choqué que dans Titans. Alors, est-ce qu'ils ont plus de thunes, je ne sais pas. En tout cas, la team est relativement originelle, surtout dans le paysage des super-héros aujourd'hui, et il y a des interactions entre ces personnages qui sont forcément tous broyés. Quand ils se parlent entre eux, c'est pas non plus toujours très tendre, donc c'est assez cool, assez savoureux. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, moi, le pilote m'a bien branché, donc je vous conseille de regarder dès que ça sortira sur Netflix. On va parler d'une autre série télé et on va du coup mettre un petit jingle.
On va me dire oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Eh ben oui, des fois, il y a des trucs dans la culture qu'on n'aime pas non plus et on en parle. The Umbrella Academy, on va se faire des amis. C'est marrant parce que donc, on en parlait en préparant l'émission et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait tous les deux pas du tout aimé.
Ah, moi, quand je l'ai vu dans la conduite, je me suis dit, il a kiffé et tout, ça va être délicieux, non, parce que je vais pouvoir le défoncer. Et pas du tout, l'Academy des parapluies, bah, apparemment, il n'y a pas grand monde qui a kiffé, quoi.
Bah, en fait, j'ai vu passer des messages sur Geekzone, notamment, de gens qui avaient bien aimé, mais c'est vrai que le constat est quand même assez mitigé, globalement. Alors, on va déjà représenter un peu le sujet pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, c'est une nouvelle série Netflix qui est adaptée, elle, d'un comics de chez Dark Horse. Dark Horse, qui est donc un autre éditeur que DC et Marvel.
Cheval noir.
Voilà, cheval sombre même, oui, obscur. Merde.
Exact.
C'est donc un comics de Gerard Way, qui, pour l'anecdote, est l'ancien chanteur de My Chemical Romance. Et quand le groupe s'est séparé en 2013, il s'est reconverti. Il a commencé à écrire, dont des comics. C'est dessiné par Gabriel Ba. Et c'est donc une série qui, pour sa part, est signée de Steve Blackman, qui était scénariste sur la saison 2 de Fargo, et Jeremy Slater, qui avait scénarisé le très décevant Death Note sur Netflix, et puis la série The Exorcist, qui est tout aussi passable. Donc c'est un peu le yin et le yang, hein. Il y a un mec qui est plutôt doué, un mec qui est pas très bon, et on va voir que malheureusement c'est apparemment le mec pas très bon qui a pris le dessus. La série est en développement depuis un moment déjà, depuis juillet 2015, après plusieurs années où ils ont essayé d'en faire un film, en fait, chez Universal. Ils ont finalement décidé de pas le faire et de balancer ça en série télé. Le pitch, c'est en 1989, 43 femmes autour de la planète qui donnent naissance à un bébé alors qu'elles n'étaient pas enceintes. Et il y a donc un milliardaire excentrique qui s'appelle Sir Reginald Hargreave qui va en adopter 7 et en faire en fait une équipe de super-héros parce que ces bébés vont développer des pouvoirs. Et il va baptiser donc cette équipe de super-héros dit Umbrella Academy. On apprend pourquoi à la fin de la série et franchement, c'est pas très intéressant.
Le twist, le pouvoir du monde.
Il y en a 6 d'entre eux qui vont effectivement participer à l'action et la 7e, Vanya, donc, qui reste en dehors parce que supposément elle n'a pas de pouvoir, donc elle n'est pas intégrée dans la team. Je vais pas vous spoiler l'histoire et puis toi tu vas pouvoir en parler après aussi, mais en gros, c'est prévisible à 15 000 km.
On voit les trucs arriver.
Dès le pilote, on sait déjà où ça va. Et le problème, c'est que du coup, ben, il se passe pas grand chose d'intéressant entre le moment où ça commence et le moment où ça explose. Et en plus, j'ai trouvé la fin vraiment, pour le coup, anticlimatique aussi à souhait. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment, c'était pas ce à quoi je m'attendais pour une fin où qu'on t'annonce apocalyptique pendant toute la série.
C'est horrible parce que j'ai pas souvenir d'une série qui soit qui essaye de, t'es quand même dans un truc de super-héros, tu vois. T'es censé pouvoir, il y a des sauts dans le temps, dans l'espace, enfin, tu vois, il y a plein de trucs que tu puisses, où tu peux vraiment te lâcher.
Il y a plein d'idées,
et j'ai absolument pas le souvenir d'un truc qui soit aussi prévisible, dès le départ et où la construction des personnages soit aussi mais pourri en fait. C'est-à-dire que tu vois les gens et tu fais genre ouais alors toi t'as ça, toi tu vas faire ça,
c'est ça.
Et t'es obligé d'attendre 4 épisodes pour faire j'avais raison, c'était super. Et
c'est problématique, c'est vraiment une série où malheureusement le spectateur qui est un tant soit peu cultivé a 15 minutes d'avance sur l'épisode en cours et du coup à chaque fois c'est
voir 4 épisodes sur certains arcs et sur certains trucs, t'as 4 épisodes d'avance.
Je rapetissais un petit peu la durée, mais effectivement, on voit venir la fin dès le premier ou le deuxième épisode, en fait, ce qui est un peu dommage. Alors, il y a quand même des bons points, hein, on va pas non plus tout défoncer.
Non, c'est pour ça qu'on en parle et qu'on est énervé, je pense, c'est à cause des bons points.
mais vraiment, pour moi, c'est une vraie déception. C'est pas du tout la série où j'y suis allé en traînant les pieds en me disant ça va être nul et où c'était nul. C'est la série où je me suis dit, waouh, le concept est génial, ça sort un peu du cadre des super-héros classiques et en plus, il y a plein de bons trucs dans cette série, malgré tout. Malheureusement, l'histoire qu'il nous raconte est pas très intéressante. Du côté des bons points, on l'a dit, plein de chouettes idées. Le majordome qui est un singe génétiquement modifié, qui parle et qui est super bien réalisé.
La réalisation
de manière générale, de toute façon.
Elle est top.
Le cast est excellent. Enfin, je veux dire, entre Ellen Page, qu'on voit pas assez à mon goût, Aidan Gallagher, qui est ce gamin de 15 ans que je trouve absolument fabuleux dans son rôle.
Lui, il est incroyable. Lui, il est incroyable. Oscar.
Robert Sheehan qu'on retrouve après les Misfits dans son rôle de perso déjanté, drogué, machin, que j'ai trouvé plutôt sympa aussi. Et
ouais,
puis Mary J. Blige, je sais pas comment on prononce, Mary J. Blige,
la chanteuse,
qui joue donc une espèce d'agent qui traque un des personnages, Cha-Cha, voilà, qui est aussi assez fantastique. Et donc voilà, côté technique, en fait, côté cast et côté technique, ça marche plutôt pas mal. Le problème, c'est que, une fois qu'on a passé la bonne surprise du setup initial, on se fait un peu chier et que, comme on le disait, l'intrigue que déroule la série est vraiment loin d'être à la fois originelle ou surprenante. Et le climax, en plus, la fin est complètement loupée à mon sens. Enfin, ça ne mérite pas ça, en fait, par rapport à tout ce qu'on te fait monter. On fait monter la sauce pendant 9 épisodes et puis t'arrives au 10e et en fait... d'accord.
C'est hyper chaud, en plus, de parler des trucs qui, moi, m'ont plus dérangé sans spoiler. Donc, c'est un peu un exercice d'équilibriste. Mais en gros, le setup de base qui fait que les personnages sont comme ils sont, c'est un peu torturé, cassé, etc., pour moi est complètement con. En plus, ça tire pas du tout la route,
et
en plus ça va à l'encontre de ce que tu vois à la fin de la série, rapport au personnage qui est le responsable du tout bordel, le milliardaire en question, et t'es là genre mais pourquoi du coup ça a été fait comme ça, pourquoi ils ont été, parce que si on peut le dire, parce que ça tient pas au, comment dirais-je, ça spoile rien, mais c'est lié à leur éducation, évidemment, à la façon dont ils ont été élevés, et tu te dis mais en fait pourquoi le mec l'a pas vu arriver, enfin genre c'est complètement con.
Ouais, il y a un truc qui fonctionne pas à ce niveau-là, sans spoiler non plus, hein, la raison qui fait qu'il se retrouve en fait, c'est cette personnage tient pas la route une seule seconde en fait,
ça,
et
non
quand
plus,
on l'apprend vers la fin de la série, on se dit mais pourquoi en fait ça n'a aucun sens.
Mais en fait, c'est un twist de plus qui tombe à la flotte. Donc
ouais, voilà. C'est compliqué.
C'est un peu mon thème des séries télé. Tu vois, t'as envie d'aimer le truc pendant tout le bordel, ouais, et puis après t'es là genre mais non, bah non
voilà,
les gars.
C'est ça. En plus, bon, on rajoutera à ça aussi le côté très brouillon de la série et l'impression que parfois elle se perd un peu en route. Elle va aller explorer des backgrounds de persos dont t'as pas spécialement besoin en fait. Je pense notamment à un retour dans le Vietnam, ce genre de trucs là. Enfin, c'est des trucs où tu te fais un peu chier et où grosso modo ça n'a pas un grand intérêt pour l'intrigue principale. Et puis au final, bah voilà, un sentiment de gâchis en fait quand t'arrives à la fin où tu te dis waouh, il y avait tellement de choses à faire.
C'est vrai que la construction des flashbacks est BPT aussi. Enfin bref.
Donc il y a une critique en fait de Nick Allen qui est un journaliste sur le site de Roger Ebert qui est donc un des grands, enfin qui nous a quitté aujourd'hui mais qui était à l'époque un des grands critiques cinéma, et je trouve qu'il résume bien mon sentiment. Il dit en gros la série n'est jamais aussi avant-gardiste ou aussi cool qu'elle cherche désespérément à l'être. Et c'est vraiment ça en fait, t'as l'impression que cette série se la raconte un peu et que malheureusement il y a pas grand chose pour soutenir tout ça derrière. Donc voilà, c'est un peu une coquille vide comme on dit, et voilà, jeter un œil quand même malgré tout, parce que techniquement comme on disait, il y a des chouettes idées, il y a des chouettes trucs, et peut-être que si vous êtes, je sais pas, écrivain, ça va vous inspirer d'autres exploitations de ces idées là. Il y a 10 épisodes, c'est disponible sur Netflix en ce moment, mais voilà, nous on voulait pousser notre petit coup de gueule parce qu'on était très très déçus. Et on va enchaîner toujours avec moi en fait, hein, puisqu'on va parler très très vite de Blue Velvet, parce qu'il y a une nouvelle édition donc du classique de David Lynch. Donc ça, je sais que tu peux aller te coucher, ça ne t'intéressera pas.
Allez, salut. Allez, bisous.
Son thriller psychédélique donc sorti en 86 avec Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini et Dennis Hopper va sortir très bientôt, on n'a pas la date encore, mais bientôt, dans une restauration en 4K avec notamment un documentaire inédit de 70 minutes et plein d'autres bonus, dont notamment, et c'est là que ça devient intéressant, 51 minutes de footage perdu. En gros, c'est des images du film, des b-rolls comme on dit, hein, donc tout ce qui n'avait pas été utilisé dans le film et dont David Lynch avait déjà parlé en 2011 parce qu'il était retombé dessus un peu par hasard en fouillant les archives. Et donc ils ont tout reconstitué, ils ont tout restauré, donc il y aura 50 minutes de footage inédit à voir. Donc pour les fans, c'était plutôt une bonne nouvelle. Comme je le disais, pas d'infos encore sur la date de sortie, mais ça sortira donc probablement cette année. On termine la culture et on passe du côté de la tech avec des nouvelles de nos amis de SoundCloud qui se lancent dans la distribution. Alors on va aller très vite parce que effectivement ça concernera probablement pas grand monde, mais on voulait quand même en parler parce qu'on aime bien de temps en temps reparler de nos amis de SoundCloud, surtout qu'on connaît des gens là-bas. Donc ils vont lancer un service de distribution, donc c'est-à-dire qu'ils vont assurer en fait l'interface entre les musiciens et les portails de distribution comme Amazon Music, Apple Music, Spotify, Tencent, YouTube Music et Instagram, mais ça je sais pas trop pourquoi. Et en gros l'idée c'est que tu uploads ta musique, donc si t'as un abonnement SoundCloud Pro ou Pro Unlimited et que t'as un minimum de plays, donc de lecture sur tes morceaux, je crois que le montant est à 1000, eh bien tu peux donc te servir de ce service-là qui est en open beta pour le moment et donc demander à ce que ta musique soit distribuée sur d'autres services que SoundCloud, ce qui est plutôt cool, sachant que tu conserves 100% des droits et 100% des royalties. Donc SoundCloud ne se paye pas sur le service mais se paye sur l'abonnement donc à SoundCloud Pro ou Pro Unlimited, ce qui est un peu le même principe que les autres structures qui existent comme DistroKid ou Amuse. Clairement donc l'objectif pour SoundCloud ici c'est d'attirer plus de gens et surtout des artistes qui ont déjà un peu de notoriété et des fans pour éviter que les gens se barrent, ce qui est un peu le cas en ce moment.
C'est là où je comprends pas, parce que du coup s'ils veulent faire interface, enfin que les gens se barrent ou pas, mais les gens qui écoutent de la musique, du coup ils vont pas l'écouter sur SoundCloud.
C'est un peu le risque aussi, tu vois, eux ils comptent probablement sur le fait que ça va donner envie à des gens qui ne sont pas sur SoundCloud pour le moment, qui n'ont pas de compte sur SoundCloud, de venir s'y inscrire et d'amener avec eux leur communauté aussi. Donc quelque part ils essayent de gratter un peu de
grâce à leur super player, les gens vont rester.
ça effectivement on peut en parler. Bref, que clairement ça ressemble un peu à un baroud d'honneur, on tente le tout pour le tout pour essayer de pas crever. On leur souhaite bonne chance. Moi je vois pas trop l'intérêt moi en tant que musicien, même si a priori, et ça c'est plutôt cool, ils ont donc un outil de reporting mensuel qui est plutôt bien foutu, ce qui est intéressant parce que du coup tu sais un peu qui écoute quoi et sur quelle plateforme. Et ils ont un système aussi donc où tu es payé tous les mois mais sans minimum. Et il faut insister là-dessus parce qu'il y a pas mal de plateformes qui existent aujourd'hui de distribution qui te payent pas tant que t'as pas un certain minimum. Donc
ça marche partout. Hein.
Ouais, mais ça c'est un problème aussi pour les artistes qui ont des petits tirages en fait, parce que du coup le mec, si par exemple il a normalement c'est généralement autour de $100 minimum sur les grosses structures, ça veut dire que si t'as pas vendu pour $100, t'as $0 en fait et tu dois attendre le mois prochain éventuellement pour récupérer ta thune. Donc pour les gens qui comptent sur ça pour arrondir un peu leur fin de mois, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, c'est pas non plus une révolution, mais c'est un petit plus qui malgré tout peut faire pencher la balance pour des gens qui doutent un peu de l'intérêt du service finalement. Donc voilà, on va suivre. suivre. On va essayer de s'inscrire sur la bêta et on s'en reparlera quand on aura plus de news. Et on va terminer la tech avec des nouvelles de tes grands amis de Samsung.
Moi, j'adore Samsung, extraordinaire, très bonne marque coréenne, bon, numéro 1 du secteur. Donc, quand ils sortent un téléphone portable, on est obligé de regarder un petit peu ce qui se passe.
Est-ce que tu vas parler de ce téléphone qui se plie? J'ai vu passer ça tout à l'heure.
Évidemment.
Ah, enfin, je vais avoir des infos parce que j'ai pas eu le temps d'aller lire les articles.
Alors, tu vas voir, c'est magnifique. Ça s'appelle donc effectivement hier, c'était leur gros reveal avec la grande messe, tous les journalistes invités, et ils ont évidemment annoncé la star de la soirée qui est la famille des Galaxy S10. Alors je dis la famille parce qu'ils n'ont pas annoncé un téléphone. Il n'y a pas un Galaxy S10, il y en a quatre, c'est suffisant. Et le clou du spectacle était le Samsung Galaxy Fold, comme plié. Pour ceux qui ont vraiment séché tous les cours d'anglais de leur vie.
Il y a eu du brainstorming qui n'a pas duré très longtemps là en fait.
Alors attends, si il y a eu un brainstorming parce qu'a priori le nom de code, enfin le truc devait s'appeler Samsung Galaxy F comme plein de mots rigolos en anglais, tu vois. Là ils se sont dit non, on va plutôt le mettre en entier parce que sinon on va vraiment se faire défoncer et ça va vraiment pas le faire. Pourquoi ils ont pas gardé que le F comme fuck, voilà, je l'ai dit. C'est parce que en fait le petit téléphone coûte avec les taxes à peu près 2000$. Donc quand tu sors un produit à 2000$ qui est un téléphone, alors que tu viens de passer un an à te foutre de la gueule du prix des téléphones Apple.
C'est ça, ouais. Moi qui ai déjà du mal à mettre plus de 300 balles pour un téléphone, si tu veux, ça va pas aider, quoi.
D'ailleurs, tu vois, on pourrait parler des téléphones. Genre, il paraît qu'il y a un Xiaomi qui vient de sortir à 120 balles, qui est pas mal, tu vois, pour une fois. Donc, 100 balles okay. Le téléphone avec les remises, tu vois, on n'est pas sur le même public, on est d'accord.
Clairement.
Donc, là, le Samsung Galaxy Fold, on va pas se mentir, c'est comme d'habitude avec ce genre de techno, un téléphone qui sert plus de, regardez les gars, on s'est fabriqué des trucs cool, on est une boîte de la mort, on est plutôt dans l'image, dans le marketing plutôt que dans le truc qui pense vraiment vendre à des millions d'exemplaires.
C'est un peu comme les prototypes de bagnoles que tu vois dans les salons, en fait, où tu sais que personne pourra les conduire avant 10 ans, mais...
En plus, dans le monde du téléphone, on a vu plein des trucs à la con. Genre, on a vu les téléphones avec les caméras 3D, on se rappelle du HTC le 3D qui a vachement marché, comme tout le monde, vous en rappelez tous, évidemment. C'est pour vous dire à quel point ils en ont vendu. Le téléphone modulaire, alors ça, c'était différent, le Projectara, tu vois, c'était les mecs qui testaient un truc, ça venait pas d'une grande marque réelle. Derrière, c'était des petits labos, même si Google a voulu mettre ça en avant. Bref, c'est un petit peu du show-off, de la paillette. Ils ont en plus, quand tu vois le téléphone, ils ont une problématique qui est que quand tu as le téléphone fermé, c'est vraiment de la merde à 2000$. Donc c'est un peu problématique parce que tu as un écran de 4,6 pouces. Je sais pas si tu vois ce que ça fait, c'est vraiment tout petit. Aujourd'hui, c'est vraiment 4,6 pouces sur un téléphone de cette taille-là. C'est vraiment le téléphone qui t'explique que si tu l'as pas déplié, c'est pas possible. Donc quand tu le déplies, en revanche, t'as une mini tablette qui fait 7,3 pouces. Tu peux même avoir 3 applis dessus et a priori toutes les premières prises en main suite à cette conférence disent la même chose. Samsung aurait quand même bien fait son boulot avec une sorte de stabilité, la gestion des applications, etc. Ça semble fonctionner pas trop mal. À prendre avec des grosses pincettes. Hein. Encore une fois, c'était juste une prise en main. Il y a pas des mecs qui sont partis avec le téléphone et qui le testent depuis 3 semaines. Mmh. Donc faudra voir à terme. Mais bon, je vais pas vous mentir, c'est pour moi plus de l'exercice de style qu'un vrai produit nouveau qui est là pour mettre tout le monde d'accord en disant voilà, maintenant les téléphones ça se fabrique comme ça, ça va être génial. Non, ça se passe plutôt du côté du Galaxy S10 qui ne surprendra absolument personne. Je vais être obligé de me taper toute la gamme pour vous expliquer rapidement comment ça s'articule. Il y a le Samsung Galaxy S10, le S10 Plus, le S10e et le S10 5G que personne n'achètera parce que la 5G pour l'instant on s'en fout. Donc comment ils ont articulé tout ça, nos amis de chez Samsung? En gros, l'écran est de plus en plus grand et c'est de plus en plus puissant, sachant que le S10e en gros c'est le téléphone budget avec un écran de 5,8 pouces, donc c'est pas le plus gros, tu vois, 6Go ou 8Go de mémoire en fonction des configurations. Comme d'habitude avec Samsung, d'ailleurs il faut noter que vous avez soit du Snapdragon, soit du Exynos, le processeur maison, en fonction des pays et des séries, donc faut faire attention à ça, même si les performances à mon avis aujourd'hui sont plus ou moins équivalentes. Alors d'un côté on a du Snapdragon 855 et de l'autre côté on a de l'Exynos 9820. J'ai pas vu de test encore de puissance. Et du côté des caméras, ça change aussi, c'est-à-dire qu'on en a de plus en plus, sachant que ça va culminer à un moment à 4 objectifs. Oui, vous m'avez bien entendu. Oui, on en met toujours plus, monsieur.
Super, je pourrais faire des meilleures photos de mes chats.
C'est ça, exactement. Donc tu te retrouves avec une version en plus sur les 4 téléphones, c'est Android 9 Pie avec l'interface Samsung qui s'appelle One UI maintenant, j'ai l'impression. chiant. J'avoue que j'ai pas suivi les téléphones Samsung depuis un petit moment. Et la vraie nouveauté, c'est qu'ils ont gardé un truc vieux, ils ont mis un truc nouveau sur tous les téléphones, c'est que maintenant tu as la lecture de l'empreinte digitale qui s'appelle ultrasonique directement dans l'écran. Donc tu appuies directement sur le bas de l'écran où il y a un petit logo avec une empreinte digitale.
Attends, et ça... rewind deux secondes, ultrasonique, ça
ouais,
s'appelle
ils appellent ça ultrasonique.
Parce que ça apparemment, n'a rien à voir avec la choucroute.
C'est parce qu'apparemment, c'est ultrasonique pour lire ton empreinte digitale, ça fait vibrer l'écran peut-être,
ah,
tu vois.
Mon Dieu.
J'en sais rien, je vais pas regarder la tech.
Non, moi, les mecs du marketing chez Samsung, vraiment, il va falloir qu'on parle, quoi.
Ah ben, ils se lâchent, hein, tu sais. Alors, en tout cas, ils ont réussi l'effet graphique pour une fois qui est moins nul que chez les gens qui ont déjà fait. Parce qu'en fait, le problème de Samsung sur toute cette gamme, c'est qu'il y a plein de trucs où ils disent on est les meilleurs, on est les premiers, sauf que non, tout a été fait ailleurs par des fabricants chinois avant. Par exemple, l'appareil photo en façade est dans un petit trou ou dans une petite... Il n'y a plus d'encoche, si tu vois, c'est une espèce de poinçon sur certains modèles et un petit truc ovale quand il y a plusieurs objectifs sur les modèles haut de gamme. Mais ça, c'est déjà des trucs qui ont été faits par Huawei, je crois. Tu vois. Enfin, ils ont un problème de positionnement là-dessus qui va les embêter. Si c'est pas Huawei, c'est Xiaomi. Je me rappelle jamais lequel des deux l'a fait en premier, mais en gros, ils sont un peu dans le mode catch-up sur les trucs déjà faits par des Chinois. Mais après, ils ont raffiné, tu vois. Par exemple, le capteur d'empreinte digitale ultrasonique dans l'écran, apparemment, ça marche super bien. L'effet graphique, ils ont fait une espèce de petite vague quand tu poses ton doigt sur le truc et que ton empreinte digitale est lue. C'est du plus bel effet, hein, ça fait le taf. Donc franchement, c'est pas trop mal. Donc je vais continuer le truc. Le S10e, je résume, budget phone, hein, c'est la version pas chère. Et quand je dis la version pas chère, c'est la version à $750 sans les taxes.
Ok, ouais.
Je vous ai calmé ou pas? Parce que tout le monde a la version pas chère.
C'est ça, ouais.
non, mais bon, alors après, c'est un téléphone Samsung, hein, donc ça veut dire qu'il va coûter 450 balles dans 3 mois.
Ouais.
C'est un peu le problème chez eux, c'est qu'il faut jamais acheter un téléphone Samsung full price, vu comment ça décote à la vitesse de la lumière comparé à un produit Apple. Hein, c'est un peu leur souci sur le premium. Ensuite, ils ont le S10. Ça, c'est le S10 sans rien derrière. Ça va être le téléphone qui, à mon avis, va se vendre le plus, avec un écran à 6,1 pouces, qui est du QHD AMOLED. C'est bon, toute la gamme a des écrans vraiment sympas. Hein. C'est Samsung. Ils savent faire des écrans. Il n'y a pas de nouveauté ici. En termes de RAM, ils ont 8 Go. Donc là, on est sur du standard, on va dire, sur le Android flagship actuellement. Alors, pour les appareils photo, c'est là où ça commence à devenir n'importe quoi, puisque tu as du téléobjectif, tu as du grand angle, tu as un truc à 16 mégapixels ultra wide, tu as un truc pour faire la profondeur aussi. Enfin, ça devient impossible de vous faire ça dans un podcast, donc je vais vous linker le papier qui va bien. Vous allez voir, c'est même par écrit, vous commencez à plus comprendre exactement qui fait quoi. Et évidemment, comme d'habitude chez Samsung, on garde sur cette gamme-là la possibilité de mettre des cartes micro SD, ce qui n'est pas le cas chez les constructeurs chinois, par exemple, ce qui fait plaisir à tous les fans de la marque. Ils ont gardé un autre truc dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, qui est hyper important, surtout pour toi.
Ah
oui, il y a une prise casque.
Ah, moi qui suis encore un des seuls qui résiste au Bluetooth.
Et voilà, donc t'as des prises casque sur toute la gamme, et cool. Ça, c'est un truc assez important.
Mais bon, 700 balles quand même.
Alors non, parce que celui dont je viens de parler, il est à 900 évidemment, hein, sans les taxes, toujours 900 dollars. Le S10 Plus, ça c'est la version un peu comme le XS Max, enfin le 10S Max pardon chez iPhone, c'est la version pour les grandes mains entre guillemets, avec un écran de 6,4 pouces et accroche-toi, tu as 12 gigas de RAM dedans,
okay.
Jusqu'à 1 tera de stockage. Okay. Donc si tu perds 1 tera de photos avec ton téléphone, je pense que t'es content.
C'est ça, ouais.
Il va falloir commencer à investir dans les backups cloud conséquents. Et donc c'est pareil, hein, toujours plus de batterie, plus d'appareils photo, etc. Et on finit avec le S10 5G qui est le plus ambitieux de la gamme, avec un écran de 6,7 pouces. Alors là, on arrive dans le monde de la tablette, les enfants. Hein. Et on est vraiment sur toujours le plus, donc toujours plus d'appareils photo. Ah, c'est celui-là, pardon, j'ai dit de la merde. Non. C'est celui-là qui a le capteur 3D. Les autres l'ont pas, et du coup ça va être utilisé pour faire de la réalité augmentée, genre de truc, donc personne va jamais s'en servir comme d'habitude, puisque pour l'instant je vous avoue qu'il n'y a pas énormément d'applications qui soient indispensables dans le genre. Ça va coûter la bagatelle de, on n'a pas de prix parce qu'on n'a pas de date de sortie non plus.
Okay.
Bah oui, 5G, tu vois, 5G, pour l'instant personne en fait vraiment, et donc ça n'est pas disponible avant des mois et des mois mois et des mois.
Mais donc, ce sera pas 300 balles, ça c'est sûr.
Ah bah non, parce que vu la taille de l'écran, mon ami, je crois que ça va être violent. Donc voilà, une grosse gamme de produits et qui se positionne pas du tout comme leurs petits copains chinois sur des, on va dire des entre-deux. Là, tu sens vraiment qu'ils sont à la poursuite des parts de marché d'Apple et, et surtout des marges d'Apple, hein, puisque c'est ce qui fait rêver Samsung depuis forever. Je suis un petit peu circonspect sur leur capacité à y aller. Moi, je vous dis, si vous vraiment vous cherchez un téléphone comme ça, haut de gamme, Android, etc., si ces téléphones vous tapent dans l'œil, attendez juste un petit peu, parce que les prix vont, à mon avis, dégraisser très, très vite. Et surtout, comme ils sont extrêmement agressifs, bah, y a plein d'offres avec les opérateurs, surtout en France. Donc, vous pouvez les toucher à des rapports qualité-prix qui commencent à devenir intéressants. Et si vous cherchez des téléphones avec une prise casque, j'ai envie de dire, ça va être très, très vite vu, puisque cette année, je pense que ça risque d'être pratiquement les seuls. Et ça va jouer, tu vois, leur avantage principal, ça va pas être leur appareil photo, les trucs, enfin, tu vois, des trucs super modernes que tout le monde regarde. Ça va être ce truc-là, ça va être de pouvoir brancher un bon vieux jack. Ce qui est assez rigolo, puisqu'en même temps, ils ont annoncé une paire de earbuds qui veut aller concurrencer les AirPods d'Apple. Donc, du Bluetooth, mais on garde la prise casque, tu vois. Bon, tu sens que les mecs veulent aller partout en même temps.
C'est ça, ouais. Ils savent pas trop, en fait.
C'est un peu compliqué. Donc, pour l'instant, ils ont pas été testés, donc on n'a pas de retour sur leur qualité exacte, mais c'est pareil, ils seront un petit peu moins chers. Par revanche, ce sont des semi-intra, hein, c'est pas des pods qu'on pose dans l'oreille comme chez Apple, donc il y a du pour et du contre. Moi, je déteste, par exemple, mes oreilles sont contre, mais en termes de qualité de son, c'est généralement meilleur. Je sais que toi, t'aimes beaucoup ce système-là. Donc,
ouais,
ça sera, à mon avis, il y aura un public pour ça, et surtout, la boîte a l'air super jolie, la puissance, enfin, la charge a l'air d'être correcte, donc c'est un produit à suivre, et qui va évidemment fonctionner dans tout le petit monde Android. La dernière nouvelle, c'est quand même qu'il y a toujours Bixby dans ces putains de téléphones. Bixby, c'est leur assistant débile, tu sais, l'assistant gentil, tu vois, le truc qui essaye de t'aider, mais qui marche qu'en Corée, en fait. Hein.
Le Jarvis du pauvre.
C'est ça, la tronche du Jarvis. Non, c'est une catastrophe. En revanche, ils ont compris un truc, c'est que maintenant, le bouton qui sert à activer Bixby sur leur téléphone, tu peux le reprogrammer pour lui faire faire autre chose. Parce que très honnêtement, Bixby, en France, on s'en fout complètement. Apparemment, en Corée, il marche pas mal, etc. Mais bon, bah, les Coréens, Samsung, tu vois, c'est pas compliqué. Il y a une petite relation fusionnelle entre les deux. Mais chez nous, bah, ça marche pas du tout. Et du coup, si vous voulez pouvoir déclencher un autre assistant, celui de Google, qui fonctionne très, très bien, ça sera plutôt mieux de pouvoir le faire avec ce bouton. J'espère que ça fonctionne. Encore une fois, les tests ne sont pas sortis. Hein. C'était juste le reveal, hein. Voilà, l'annonce, les plus un hands-on derrière. Donc, les journalistes ont pu regarder et filmer les téléphones. Mais ça s'arrête là. Donc, voilà, on en reparlera peut-être ou pas si ça s'annonce être une tuerie, mais on va certainement parler plus de téléphones Android qui nous viennent de la main China bientôt, puisque je suis en contact entre autres pour aller tester justement et récupérer des samples pour les téléphones Xiaomi entre autres, et donc on risque de pouvoir enfin parler d'applications Android modernes, puisque nos samples à moi et Faskil actuellement étaient quand même du level de la brouette, hein.
On est un peu largué. Moi, il y a plein d'apps que je peux pas installer sur mon téléphone. Voilà, ça règle le problème, hein, forcément.
Donc, je vais voir si on peut faire quelque chose pour vous, monsieur. Et pouvoir tester toutes ces petites choses-là, puisque surtout si Apple continue à sortir des téléphones à plus de 1000 balles, il y a un moment où il va falloir trouver des alternatives.
Et c'est la fin de ce 79e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine dès 8h pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, bon week-end. Tu fais quoi ce week-end, toi, Kev?
Écoute, ça va être très calme et très studieux. Il paraît que j'ai du travail, mais en même temps, tu sais, il faut continuer de tester pour voir si Apex plante toujours, tu vois. C'est important pour pouvoir informer les gens.
C'est ça, oui.
J'étais crédible ou pas, là?
Pas du tout.
Ah, merde. Bon, bah, bon week-end quand même.
Allez, ciao.
Ciao.
Impeccable. Allez, on va attaquer tout de suite alors du coup avec le... Pardon, je m'étrangle du coup. Pardon.
Ok, et il mourra et le podcast ne sorta jamais.
Ne
sorta jamais. Ouais, ça je dis, je suis sûr.
Forcément, oui.
Si tu meurs, t'es réveillé, les chats qui vont te manger. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Hein.
Un podcast signé Faskil. Faskil.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du theorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
Hey, how's your girl, man?
She left me.
Oh.
Yeah, my mom died too. And my dad got deported. But I got the van.
It's nice.
Yeah, right?